Bonjour, le 28 octobre, la République tchèque fête le 90e anniversaire de la création de l'État tchécoslovaque indépendant sous les ruines de l'Autriche-Hongrie, dont Tchèque et Slovaque faisaient partie depuis 1926. L'occasion de se souvenir du rôle important joué par la France dans la création de cet État. 10 mois avant qu'il ne soit proclamé, le président français Raymond Poincaré avait signé un décret reconnaissant les légions tchécoslovaques créées en France en tant qu'armée autonome.
Il a été finalement signé le 16 décembre 1917 et cet accord, là encore, est un événement important sur le plan militaire, mais également politique, puisque c'était la première fois que le Conseil national tchécoslovaque était reconnu comme une autorité et que si cette armée était placée sous le commandement français, elle était politiquement sous le commandement du comité national tchécoslovaque. Ça a été la première grande victoire, je dirais, diplomatique du Conseil national et en particulier d'Edvard Beneš et de Milan Rastislav Štefánik.
C'est ce que dit le professeur Antoine Maes, détenteur de la chaire d'histoire d'Europe centrale à la Sorbonne et spécialiste des pays tchèques, le récent invité à une conférence au Sénat et notre invité dans cette émission spéciale consacrée à la fête nationale de la République tchèque. Comme il le rappellera, la France a été la première à reconnaître la Tchécoslovaquie le 29 juin 1918. C'est en effet à Paris, rue Bonaparte, qu'avait son siège le Conseil national tchécoslovaque et d'où ses activités politiques et diplomatiques en vue d'obtenir la reconnaissance de l'État auprès des puissances étaient coordonnées. Quel a donc été le soutien de la France à la cause tchèque et à la Première République masarykienne? On écoute Antoine Maes.
Il faut peut-être rappeler que l'appui de la France à la cause tchèque est quelque chose qui précède déjà la Première Guerre mondiale et qui a eu une espèce de convergence intellectuelle entre certains milieux tchèques et les Français qui relèvent essentiellement d'une espèce de complicité intellectuelle et culturelle qui touche en particulier, comme vous le savez, les milieux artistiques, mais aussi les jeunes gens qui veulent se dégermaniser, avoir une formation occidentale, rentrer en même temps dans la modernité. Et c'est ainsi qu'on a vu des hommes comme Karel Kramář ou Edvard Beneš venir étudier en France et dans la foulée des contacts qui avaient été pris en fait beaucoup plus tôt par Ladislav Riger, le gendre de Palatsky et d'autres. Il faut remonter de fait aux années du Second Empire du côté français et la fin des années 60, le début des années 70 pour voir se développer ces relations franco-tchèques qui vont déboucher sur un soutien politique au début de la Première Guerre mondiale.
Quelles ont été les sympathies de l'opinion publique française, des médias, et puis comment se présentait le soutien de la scène politique française?
Alors, il faut dire que la scène politique française n'est pas déterminée par la question tchèque, qui est une question relativement secondaire, et que les clivages ne sont pas forcément des clivages politiques classiques. Ce n'est pas la gauche qui soutient la cause tchèque, ni la droite. Les clivages passent à l'intérieur des partis politiques, par exemple du côté des socialistes. Il y en a qui soutiennent la cause tchèque, c'est le cas du ministre de l'Armement, Albert Thomas, socialiste. En revanche, il y en a d'autres qui sont un petit peu dans la tradition des socialistes centralistes tchèques, qui eux sont hostiles à une division d'Autriche-Hongrie, ne sachant pas ce qui pourrait en sortir. Alors, de façon très schématique, ce sont les radicaux, les radicaux socialistes, les protestants, les milieux qui tournent autour de la Ligue des droits de l'homme, également la franc-maçonnerie, assez largement, qui soutiennent la cause tchèque. Bien entendu, les adversaires les plus déterminés de la cause tchèque sont ceux qui soutiennent le maintien de l'Autriche-Hongrie, les milieux catholiques, je dirais, très conservateurs, ont des atomes crochus, en quelque sorte, avec le conservatisme bourgeois, ceux qui soutiennent la cause hongroise également, et qui à ce moment-là sont en général hostiles à l'ensemble des Slaves de la monarchie et à leur indépendance. Voilà, c'est un petit peu le tableau qu'on peut faire. Mais j'ajouterais que chez les catholiques, il y a aussi des hommes, et certains auront un avenir important, comme le cardinal Baudrillard, qui soutiennent la cause tchèque pendant la guerre. Et que parmi les diplomates qui soutiennent la cause tchèque, il y a les diplomates qui se trouvent à Rome et au Vatican. Donc on n'a pas un paysage en noir et blanc, mais un paysage assez complexe, qui tient plus d'ailleurs aux contacts individuels que les gens ont pu avoir, soit avec des tchèques, soit avec ceux qui soutiennent la cause tchèque. Et bien évidemment, on ne peut pas négliger le rôle des historiens.
Quel a été le rôle des légions tchécoslovaques étrangères créées en France?
Alors, il y a au moins trois éléments qui ont joué. Il y a l'élément symbolique qu'a constitué la compagnie Nazdar au sein de la légion étrangère, composée uniquement d'hommes de la colonie tchécoslovaque. Et là, je dirais que ça a eu un impact au niveau des médias. On s'est dit, voilà, les Tchèques existent, et ils s'engagent aux côtés de la France. Et puis, cette compagnie, comme vous le savez, a été décimée très rapidement en 1915. Et ensuite, la question s'est posée de la formation d'une armée tchécoslovaque qui est décidée en décembre 1917 et qui se met sur pied tout au long de l'année 1918 et qui est engagée au cours de l'été 1918 dans les Vosges. Un groupe plus conséquent numériquement, 10 000 hommes, et qui symboliquement, là encore, a joué un rôle important. Et puis le troisième élément, ce sont les légions tchécoslovaques en Russie, qui effectivement, dans le cadre du changement de régime en Russie, jouent un grand rôle. Dans un premier temps, on imagine qu'ils pourront être le noyau à partir duquel le régime léniniste tombera. Et dans un deuxième temps, c'est un moyen de pression sur les diplomates, et pas seulement français, tous ceux qui redoutent ce régime pour des raisons soit idéologiques dans un premier temps, soit pour des raisons géopolitiques, puisqu'il y a cette poussée vers l'Europe au printemps 1920, et qu'on redoute, c'est l'image du bolchevique avec le couteau entre les dents, on redoute ce danger pour l'Europe. Donc ces trois éléments, soit symboliquement, soit pratiquement, ont joué effectivement un rôle, d'autant qu'ils ont été instrumentalisés habilement, il faut bien le dire, par Edvard Beneš, qui était en charge de ces négociations, et que la pression qu'il a exercée à partir de ces éléments, soit sur l'opinion publique, soit sur les diplomates, a été efficace.
Ça a reconnu la...
Oui, alors c'est aussi un élément intéressant. Parmi les alliés, la France a été la première à reconnaître la Tchécoslovaquie le 29 juin 1918. Elle l'aurait reconnue plus tôt s'il n'y avait pas eu des résistances britanniques, notamment italiennes. On peut dire que à partir du mois de mai 1918, du côté français, la cause tchécoslovaque sur le fond est entendue. Et il est heureux de parler du rôle de la France aujourd'hui dans la création de la Tchécoslovaquie. Je suis d'autant plus heureux d'être à Prague en ce moment. Pour une fois qu'on ne parle pas de la France à propos de Munich, eh bien c'est une occasion rêvée de rappeler ce rôle éminent.
C'était le professeur Antoine Marès au micro de Radio Prague.